voix nue. Cette semaine, rencontre de Clémence Boulouk avec Toni Morrison, enregistrée en 2006. Toni Morrison, première femme afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1993, nous a quittés le 6 août 2019. Célèbre pour ses romans Beloved, Jazz, elle revenait en novembre 2006 sur la mémoire qu'elle avait reçue en héritage dans ses entretiens exceptionnels que nous réécoutons cette semaine.
Bonjour, deuxième de nos entretiens avec Toni Morrison. Aujourd'hui, nous reviendrons avec la romancière américaine sur le temps des enseignements et de son entrée en écriture. Après les années de formation, nous entamons à présent le temps des engagements, un temps qui correspond à cette entrée dans la vie active, peut-être, à l'Université du Texas, où vous commencez à enseigner en 55, en pleine émergence des droits civiques.
Teaching at Texas was instructive in a number of ways. It was the first time I'd been anywhere where they taught African American history. They did not teach that at Howard. So when I took the job there, I was immersed in a history that I only knew anecdotally, not academically. And also, there were these stirrings of the civil rights movement. But there had been those before. I didn't think it was going to be as huge as it became.
Oui, cette première période d'enseignement à l'Université du Texas a été très instructive pour moi, et ce à maints égards. D'abord, c'était la première fois qu'il m'était donné d'enseigner l'histoire afro-américaine, qui était une matière qui n'était pas enseignée à l'Université de Howard. Et je me suis donc trouvée immergée dans cette histoire de mon peuple, mais que je connaissais seulement de manière anecdotique et pas du tout de manière universitaire, académique. Et puis, comme vous le soulignez, il y avait ces remous de plus en plus prégnant des droits civils, et j'étais la première étonnée d'ailleurs, parce que je ne pensais pas que ce mouvement allait aller si loin à l'époque et si vite finalement.
En 1957, vous retournez sur vos traces, vous retournez à Howard. C'est aussi une période dans laquelle vous rencontrez des figures qui vont être importantes. Vous avez eu comme élève Stokely Carmichael, qui allait être un leader du SNCC et des Black Panthers, ainsi qu'Andrew Young, qui sera un futur maire d'Atlanta. Est-ce que vous aviez conscience à ce moment-là d'assister à l'émergence de figures qui allaient compter dans l'histoire noire américaine et dans l'histoire américaine tout court, Toni Morrison?
Non. They seemed, Andrew Young was a classmate when I was an undergraduate. He seemed nice. He was going to school of religion. Stokely Carmichael was a student. He was very articulate, very bright, a little bit of a rogue in class. The last time I saw him, I said, what are you going to do now that you've graduated, Stokely? And he said, I've been accepted at Union Theological Seminary. But this summer, I'm going on the Freedom Rides.
Non, j'avais pas du tout conscience à l'époque que ces gens allaient devenir des figures éminentes de l'histoire afro-américaine. Andrew Young, bon, c'était un camarade de classe, il était très sympa. Après, il s'est orienté vers une école de religion. Et Stokely Carmichael, oui, lui était un de mes étudiants. Il était extrêmement intelligent, brillant, un petit peu chahuteur, ou disons un peu rebelle, on le sentait déjà comme cela. Et quand il a eu son diplôme, je lui ai demandé, bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Alors il me dit, bon, je vais à l'université de Union. Mais il m'a dit surtout, cette année, il y a une marche pour les libertés, cet été, et je compte bien y participer, voilà.
Ces deux personnages sont entrés en religion d'une certaine manière, ils étaient aussi des étudiants en théologie. Ce n'était pas tout à fait votre cas de rentrer en religion, Toni Morrison, puisque d'une certaine manière, vous étiez plus un observateur qu'une activiste sur le campus.
I was a faculty member.
That makes a difference.
I was not rolling around with the students.
Du corps enseignant. Donc j'étais pas censée traîner avec les étudiants.
Et... Mais en 1964, vous quittez l'enseignement et là, vous devenez éditrice chez Random House. Vous allez publier des livres comme ceux de Mohamed Ali, Angela Davis, Andrew Yang justement. Est-ce que c'était une façon de mener ce combat que vous n'aviez pas pu mener pour des raisons de statut d'enseignant sur le campus?
I thought it was extremely important that those people who were in the news, who were leaders, who had the attention of the media, should be handled in their books. They should leave their stories in a permanent place. And that I was the one who should do that. I didn't trust others to midwife their work. So I published Huey Newton, I published Angela Davis, Muhammad Ali, but also many emerging writers, African Americans.
Like, for instance?
Toni Cade Bambara, Lucille Clifton, June Jordan, those people who probably would never have gotten, at least that early, a publisher.
Je trouvais important que tous ces gens dont on entendait beaucoup parler dans la presse, qui faisaient la une des médias, qui étaient les leaders de leur mouvement, eh bien, laissent une trace. Et, ou mieux que dans un livre, pouvait-on ancrer comme ça de façon permanente leur vie et leur œuvre. Et c'est vrai que je voulais là jouer un rôle actif. J'ai eu le sentiment que c'était à moi de les faire accoucher de leur œuvre et je ne faisais pas confiance à d'autres pour le faire. Et pour moi, c'était vraiment un travail de sage-femme, oui, que j'ai joué auprès d'eux. Il y a eu Huey Newton, Angela Davis, Mohamed Ali, comme vous l'avez dit, et puis d'autres aussi, moins connus, Toni Cade Bambara, Jordan, who else did you say?
Clifton.
Lucille Clifton, qui à l'époque était beaucoup moins connue et qui après ont été reconnues.
C'est une période d'accouchement, vous l'avez dit, Toni Morrison, mais c'est une période aussi d'accouchement de vous-même, dans la mesure où vous divorcez de votre mari que vous aviez rencontré sur le campus en 1958 à Howard. Dans votre deuxième roman, Soula, vous écrivez à propos de l'une de vos héroïnes. N'étant ni blanche ni mâle, elle se voit dénier toute liberté et toute possibilité de victoire et doit entreprendre de se créer une autre identité. Est-ce que cet impératif, cette nouvelle identité, c'est aussi un appel que vous avez ressenti à cette période-là?
I felt that there was nothing new about the person I became or was in the process of becoming. It was a direct line from the women in my family who were very fierce and they were very resistant and very clear about their responsibilities. So knowing the difficulties of my grandmother on both sides, I felt that I could not live a life that was not that they would make fun of. And I had the advantages of an education and a professional job, and they didn't. So how could I collapse? I had to keep up, at least try to be on a par in strength with what they had acquired.
En fait, il ne s'agissait pas tant de me recréer une nouvelle identité, mais plutôt d'achever ce processus de devenir moi-même et la personne que je suis devenue. Je crois que ça s'inscrit en droite ligne avec la tradition familiale, notamment celle des femmes dans ma famille, qui toutes étaient très déterminées, savaient ce qu'elles voulaient et avaient une grande résilience comme cela. Et connaissant les difficultés auxquelles s'étaient confrontées mes deux grands-mères, j'avais vraiment le sentiment que je devais être à la hauteur et que je devais être digne d'elles. Et pour forger cette vie, j'avais en plus des avantages dont elles n'avaient pas pu bénéficier, notamment bien sûr l'éducation et le fait d'avoir un métier. Donc moi, je n'avais pas le droit de m'effondrer, il fallait que je sois forte et que je sois effectivement digne des femmes de ma famille.
digne des femmes de votre famille, digne des femmes tout court d'une certaine façon. Vous écrivez en 1970 The Bluest Eye, enfin vous le publiez, L'œil le plus bleu, l'histoire de Pecola Breedlove, une jeune fille dans les années 30 qui rêve d'être Shirley Temple, qui rêve d'yeux bleus. L'accueil de la critique est favorable, c'est pas encore un grand succès de librairie, mais ce qui frappe à l'époque, c'est la réception assez froide des milieux radicaux. Est-ce que justement cette froideur a été une surprise, Toni Morrison?
Oh, the whole thing was a surprise to me. The fact that it got published at all, because it was in the midst of books that were being sold that were confrontational vis-à-vis white people. They were male kill whitey books, I call them. Claude Brown, James Baldwin, starting with even earlier, Richard Wright, and books that were about power. So this was a book by a woman about something I was curious about, which was how pitiful if you absorb the racism that is around you. It was so unlike my own experience. So that inquiry was about something I didn't understand about that little girl. You know, I was more like Claudia. What is the matter with her?
Claudia, qui est la narratrice de L'œil le plus bleu.
Oui, l'ensemble a été une surprise. Déjà, le simple fait pour moi d'être publié était une énorme surprise. Mais ce qui rendait le contexte un peu difficile pour moi, c'est que la mode en matière de littérature noire afro-américaine était surtout à la polémique, des livres très politiques qui jouaient surtout sur la confrontation, l'animosité entre noirs et blancs, comme les livres de Brown ou George Jackson ou James Baldwin ou avant cette époque-là Richard Wright. En fait, c'était des livres très polémiques, très agressifs et qui traitaient essentiellement du pouvoir, sans doute parce qu'ils étaient écrits par des hommes. Et moi, je trouvais ça très triste, finalement, que seulement cela surnage cet esprit très polémique, très agressif, et le fait de que tout est fini par absorber, finalement, par intérioriser le racisme ambiant. Et cela était contraire, je trouvais, à mon expérience personnelle. Je n'avais pas suivi cette voie. Et pour revenir à l'héroïne que vous évoquez, Pecola, oui, moi j'étais plutôt comme Claudia, en effet, la narratrice, et à me demander, mais pourquoi est-ce qu'elle recherche tout ça? Pourquoi est-ce qu'elle court après ces fantaisies?
On a parlé de violence, vous avez parlé de violence, Toni Morrison. C'est aussi une période des États-Unis qui est marquée par ces vagues de violence. On pense à l'assassinat de Martin Luther King. Comment est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous avez un souvenir de ce jour, de ce moment?
The death of Martin Luther King was devastating to me. Even though I'm sure it didn't surprise him. America's a very violent country, has always been. What was different was television. We began to see the violence in Vietnam with assassinations, with riots. So it brought it home in a way that usually you only get that on the radio or, you know, in print. But and then there was more, you remember, after that. That was just the beginning.
Oui, j'étais totalement dévastée par l'assassinat de Martin Luther King. Mais lui, je pense, n'a pas été surpris s'il s'est rendu compte au moment de sa mort qu'on l'assassinait. Je pense que malheureusement, il devait s'y attendre. Et l'Amérique est un pays violent, et a toujours été un pays violent. Alors bien sûr, c'est différent d'entendre le récit d'émeutes, d'assassinats ou de la guerre au Vietnam à la radio ou de le lire dans la presse, alors que là, on commençait à diffuser les images à la télévision et donc on était en prise directe avec cette grande violence, oui.
Cette grande violence, c'est aussi celle de cette littérature masculine, c'est aussi celle du monde des hommes. Dans votre œuvre, Toni Morrison, et dès L'œil le plus bleu, on est très loin de la figure du leader-père, on est plutôt proche de la figure du père violeur, comme celui de Piccola, qui rappelle aussi celle du père dans Homme invisible, pour qui chantes-tu, d'Ellison.
I find rape, as described by men, there's something about their descriptions in which they take pleasure. And Ellison's rapist, oh, it's horrible. Oh, it's miserable. Oh, this contrition. But there's some subterranean joy. Mm. I wanted to describe rape in the bluest eye, in the language of a woman, so that it's very soft. And I thought more repugnant because of that, because of the language. Mm-hmm. He's looking at her, and he cannot stand her weakness. Can't stand her weakness. And there is nothing lovely or pleasurable about it. You understand what I mean?
Absolutely.
You take away that joy of rape, even
power,
when the rapist
yeah.
mm-hmm. is saying, oh, I did this terrible thing. You still feel his sense of power. So I want to take that away.
You deprive the rapist.
That's right. Deprive the rape of its glory.
Il y a quelque chose de très particulier dans la manière dont les hommes décrivent une scène de viol, parce que je pense qu'au fond d'eux, finalement, ils y prennent plaisir. Et c'est vrai que le violeur d'Ellison, bon, il est tout contrit, il fait sa repentance, c'est horrible, etc. Mais on n'y croit pas, parce que ce que l'on perçoit surtout, c'est cette joie souterraine qui ne peut pas s'empêcher d'éprouver. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire passer dans L'œil le plus bleu, c'est-à-dire d'écrire un viol, mais du point de vue de la femme et dans le langage de la femme, un langage beaucoup plus doux, mais qui rend la chose encore plus atroce et encore plus révoltante. Je pensais que c'était plus efficace comme cela. Et puis surtout pour restituer la parole à cette femme qui se fait violer, parce que le violeur, bon, en fait, bon, il n'arrive pas à regarder sa victime, ou s'il la regarde, il se dit, je ne tolère pas, je ne supporte pas sa faiblesse, etc. Après, il fait semblant de faire acte de contrition, mais je voulais démanteler tout ça et priver, arracher ce petit plaisir qu'éprouvent encore les hommes dans la narration d'un viol et les priver de ça, qu'il ne l'est plus.
Dans Le Chant de Salomon, le troisième roman en 1977, on rencontre d'autres figures masculines assez peu glorieuses, celles des hommes en fuite. Et pour évoquer l'absence masculine, vous vous tournez vers la figure mythique de l'Africain volant. Alors, est-ce que d'une certaine manière, se retourner vers la source du mythe, c'est pas une fable aussi qui permet de rendre la réalité insupportable, supportable ? Est-ce qu'on n'arrive pas là à l'essence du mythe et de son usage dans la littérature ?
Myth holds meaning. It has a truth that is timeless and timely.
Oui, le mythe recèle une signification, un sens qui est porteur d'une vérité et d'une vérité intemporelle.
C'est celle de l'Africain volant, c'est celle aussi de l'homme en fuite. C'est une façon d'approcher une réalité qui a été décrite, par exemple, dans le rapport Moynihan en 1965, qui a fait grand bruit sur le malaise dans les foyers noirs. Quelle était cette absence que vous vouliez décrire, Toni Morrison ? Cette absence de l'homme dans le foyer.
No, that report was idiotic. That was some Moynihan. He blamed black women for everything. Now, in the literature of the West, the man who leaves home is a hero. Mm. He is called Ulysses. He is called anything. He is the warrior who leaves home. He is not accused of abandoning his family. He is someone we're supposed to look up to. So if a black man leaves his family, suddenly it's his irresponsibility. Suddenly it's his defeated. Mm-hmm. Song of Solomon contained a myth that was ambivalent. There is the thrill, the excitement of a man who can fly. And that story has been around in the United States among black people forever. It still exists in Georgia on the Sea Islands. But on the other hand, he does leave behind his wife and children. So you can't have it both ways. You stay home and mind the children. Is that heroic or just responsible? You leave, you fly away, you go to war, you have an adventure, and you're praised in the world. It's what that you abandon. So I'm not buying into the black man without responsibility thing.
Oui, ce rapport était tout à fait idiot. En fait, on jette le blâme totalement sur la femme noire qui incarne tous les dévoiements. C'est très caractéristique de la littérature occidentale. Quand un homme quitte son foyer, sa famille, eh bien, on le considère comme un héros, on l'appelle Ulysse, on dit que c'est un guerrier, et jamais on ne va songer à l'accuser d'avoir déserté tout le monde, d'avoir abandonné sa famille. Alors que si c'est un homme noir qui quitte le foyer familial, eh bien, tout de suite, on va le juger irresponsable, c'est un échec, c'est la défaite, etc. Et dans le chant de Salomon, j'ai essayé de mettre en scène l'ambivalence de ce mythe, justement. Alors c'est vrai qu'on a cette histoire qui continue de courir, on continue de le raconter, ce mythe de l'Africain qui vole, qui parvient à voler. C'est très riche et c'est passionnant et ça nous aide aussi, ce mythe. Mais pour revenir à l'image de l'homme noir, bon, au final, bon, il finit par mourir, donc il va vraiment définitivement laisser sa femme, ses enfants, etc. Mais bon, il faut savoir, soit il reste à la maison et on le juge responsable, ou bien il s'en va, mais sans pour autant bénéficier de l'héroïsme de l'homme blanc. Enfin bon, c'est un catch 22, enfin c'est un... Et finalement, quand il part faire la guerre, trouver des aventures, on va faire la louange de l'homme blanc, alors que l'homme noir, lui, on va le juger très sévèrement, estimer qu'il a abandonné les siens. Donc moi, je n'adhère pas du tout à ce mythe qui tient l'homme noir pour l'essence même de l'irresponsabilité.
Ça, c'était une intuition qu'on pouvait avoir en vous lisant Toni Morrison, que le rapport Monihan, c'était... n'était pas forcément votre tropisme intellectuel. Dans votre œuvre, autant qu'une interrogation sur la responsabilité du fuyard, on a aussi le sentiment que c'est une interrogation sur la société qui pousse à partir et qui souvent dupe les hommes. Mais quand la société trompe les hommes, finalement, ce sont les femmes qui en sont les ultimes victimes.
Mm. It's very complicated. Double standard. The recognition that men move, they go out, they don't stay in the house. You know, traditionally that's not, they work, they go away. The woman stays home. So she has a double burden. And it's negotiating those two roles that I was interested in Song of Solomon and elsewhere. A woman does not leave. Normally, she's castigated if she is, condemned if she leaves her children or abandons her children in our society. And that is suggested that she needs the help of a man, and also society condemns her if she doesn't, if she's not able, as you say, to measure up to all of these requirements, and she becomes... She can become, even in her own eyes, a victim. I just refuse to believe that.
Oui, tout ça, c'est en fait, c'est tellement compliqué. Et puis, il y a la question du deux poids, deux mesures, du double standard quand même qui est appliqué. Là, c'est vrai que traditionnellement, les hommes ont toujours joui de la liberté de bouger, de sortir de chez eux. Ils ne restent pas enfermés à la maison, ils sortent travailler, etc. Alors que la femme, elle, est coincée dans la maison et doit affronter cette double charge et s'occuper des enfants. Bon, il y a tous ces rôles traditionnels. La femme, elle, va être jugée très, très sévèrement si elle ne s'occupe pas bien de ses enfants. Pire encore, si elle quitte le foyer. Et puis la femme est toujours vue comme un individu faible qui a toujours besoin de l'aide de l'homme, etc. Et comme je le disais, elle va être jugée beaucoup plus sévèrement si elle s'avère incapable de faire face à toutes ces tâches domestiques. Oui.
Alors faire face, nous le verrons demain, c'est aussi faire face à l'amnésie. Ainsi s'achève notre deuxième rencontre avec vous, Toni Morrison. Merci. C'était À Voix Nue, donc un entretien proposé par Clémence Boulouk.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Clémence Boulouk avec Toni Morrison, enregistrée en 2006. À Voix Nue. Réalisation Dominique Briffaut. Prise de son Marie Le Peintre, Marcel Lebras. Coordination Daphné Abgral. À Voix Nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.